Et c'est le journal de Sébastien Legenis, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, le recul historique du tabagisme, moins 12% en 2 ans. Plus du quart des adultes français continuent toutefois de fumer. Explication avec le service santé dans un instant. 2 jours après les élections européennes, retour sur le succès des Verts. Exemple dans ce journal avec Damien Carême, un maire élu eurodéputé. Il quitte son laboratoire de Grande-Synthe pour le Parlement de Strasbourg. Reportage à suivre. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron sur le départ pour un Conseil européen exceptionnel à Bruxelles. L'auteur présumé de l'attaque au colis piégé de Lyon interpellé hier. Et puis, on parlera aussi de Boko Haram qui gangrène toujours le Nigeria et sa région et d'un projet musical en concert, The Good, The Bad and The Queen, quand les meilleurs exemples de la Britpop se réunissent le temps d'un soir à Paris.
Invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50. Aujourd'hui, la députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. J'ai nommé Clémentine Autain.
France Inter.
La baisse est inédite dans notre pays, Sébastien. 1 600 000 fumeurs de moins en 2 ans.
Des résultats encourageants, en effet, publiés dans un rapport de Santé publique France ce matin, même si notre pays reste toutefois un des pays européens où l'on fume le plus. Les précisions de Véronique Julia du service Santé d'Inter.
Une baisse du nombre de fumeurs de 12% en 2 ans, l'ampleur est inédite. Aujourd'hui, un peu plus d'un quart des Français de 15 à 85 ans fument quotidiennement. On était plus proche des 30% il y a 2 ans. Encourageant aussi, la baisse du nombre de cigarettes fumées chaque jour, 13 cigarettes en 2018 contre près de 14 en 2010. Les politiques publiques y sont sans doute pour quelque chose, la hausse du prix du tabac, l'instauration du paquet neutre, le remboursement des substituts nicotiniques, la promotion des cigarettes électroniques, l'opération Moi sans tabac aussi. Mais la France reste un pays où l'on fume beaucoup comparé à d'autres pays du même niveau économique. En Grande-Bretagne par exemple, on est passé depuis quelques années sous la barre des 20% de fumeurs. Les inégalités sociales perdurent aussi, on fume moins chez les plus diplômés, 19% de fumeurs dans cette catégorie, contre 28% parmi les Français de niveau inférieur ou égal au bac. Le tabagisme féminin inquiète également. Depuis 15 ans, le nombre de décès attribuables au tabac chez les femmes augmente chaque année de plus de 5%. Santé publique France constate malgré tout que la dénormalisation du tabac fait son chemin et que la poursuite de l'augmentation du prix devrait conforter la tendance dans les années à venir.
Véronique Julia, ajoutons que le tabac tue encore des dizaines de milliers de personnes en France, 75 000 morts en 2015, un décès sur 8. C'est à retrouver sur franceinter.fr. Et puis à noter aussi que la cigarette électronique est de plus en plus utilisée comme un outil de sevrage. En 2018, près de 4% des adultes disent l'utiliser quotidiennement. Santé encore avec ce débrayage symbolique aujourd'hui dans les urgences. 5 minutes de grève à midi pour protester contre le manque chronique de médecins urgentistes. Il n'y a pas de solution miracle, a répondu hier la ministre de la Santé Agnès Buzyn. On passe maintenant aux élections européenne, avec des partis politiques français divisés entre turbulence et espérance. Turbulence d'abord chez les Républicains et les Insoumis à droite. Réunion hier sous haute pression rue de Vaugirard. Laurent Wauquiez a refusé de démissionner. Le président des LR propose des états généraux du parti à la rentrée. Gérard Larcher, le président du Sénat, doit s'entretenir avec lui ce matin. Autre crise ouverte, celle-là chez les Insoumis, avec ce tir de barrage de la députée Clémentine Autain qui ce matin pilonne la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Notre famille politique prospère quand elle s'appuie sur le ressort de l'espérance et non sur celui de la haine. Fin de citation, on l'entendra à 7h50. En revanche, chez les Verts, on est tourné vers l'avenir avec ses 13%. Europe Écologie Les Verts va envoyer 12 députés, dont Damien Carême, maire de Grande-Synthe pendant 18 ans, un écologiste qui espère bien faire à Strasbourg ce qu'il a inventé dans sa commune du Nord. Reportage sur place de Rémi Brancato.
À Grande-Synthe, la politique de Damien Carême se concrétise ici, à la Maison écologique, avec Julien Mierzejewski de l'Université populaire, des ateliers suivis par 400 habitants.
On fait tout un lot d'actions très concrètes pour apprendre à jardiner, faire ses produits ménagers, faire ses produits d'entretien, mettre en pratique une écologie sociale et solidaire.
Une écologie pour les plus précaires, avec des cantines bio, pas chères, des jardins partagés et depuis peu un minimum social, une aide financée par les économies d'énergie. Le maire défend aussi l'accueil des migrants, beaucoup beaucoup d'habitants le soutiennent.
Il faut bien accueillir les gens s'ils sont malheureux dans leur pays. Ces gens-là, ils n'ont pas demandé à venir ici.
Mais son camp d'accueil a été détruit par un incendie il y a 2 ans. 700 réfugiés vivent aujourd'hui dans des tentes et dans un gymnase. Certains riverains se plaignent.
Il essaie d'aider les migrants, mais ce n'est pas seulement la responsabilité de Grand Saint de prendre en charge les migrants.
Alors comme Mansour, 33% ont voté Rassemblement National en tête ici dimanche. Mais à la mairie, on préfère regarder le score des Verts, 21% en deuxième position.
L'action menée par Damien Carême depuis 2001, elle porte ses fruits.
Olivier Berthe est adjoint au maire.
C'est mon pote, donc je suis très heureux pour lui. Quand on prend des gens pour exemple, c'est que c'est des bonnes choses. Et le bon ici, c'est Damien Carême, donc Monsieur Jadot l'a pris.
Yannick Jadot emmène donc Damien Carême à Bruxelles avec dans ses bagages ses réussites municipales.
Le reportage de Rémi Brancato à Grande-Synthe, dans le Nord. Emmanuel Macron, lui, se prépare à dîner ce soir à Bruxelles. Conseil européen exceptionnel avec les 28 chefs d'État et de gouvernement. Pas de décision en perspective, mais une rude bataille autour du choix du prochain président de la Commission. L'Élysée espère fragiliser la candidature du conservateur allemand Manfred Weber, poussé par Angela Merkel. Pas de précipitation dans la reconstruction de Notre-Dame. Voilà le message des sénateurs qui ont adopté dans la nuit le projet de loi encadrant la restauration de la cathédrale, mais en modifiant plusieurs articles clés. Pas question notamment pour eux de déroger aux règles de l'urbanisme pour reconstruire plus vite. Députés et sénateurs vont maintenant essayer de trouver un texte commun. Comment réorganiser un mastodonte de l'industrie publique pour le rendre plus compétitif? EDF réunit aujourd'hui son conseil stratégique. L'État a demandé à l'électricien de revoir son modèle. Aux manettes, le PDG Jean-Bernard Lévy, qui devrait aujourd'hui esquisser les grandes lignes. Delphine Simon.
Couper EDF en deux sociétés, avec d'un côté le parc nucléaire, ses 58 réacteurs et peut-être les centrales hydrauliques. Cela permettrait à EDF d'emprunter sur les marchés pour affronter les enjeux spécifiques du nucléaire, construire de nouveaux réacteurs et prolonger la durée de vie des centrales actuelles. Dans cette société, l'État relèverait sa participation, 83% aujourd'hui. La production d'électricité deviendrait à 100% publique, autrement dit une renationalisation temporaire. Par ailleurs, les activités de marché, la vente d'électricité, l'isolation, la domotique et les appels d'offres pour les énergies renouvelables seraient regroupés dans une deuxième société. Mais ce n'est pas sans risque, explique Sylvain Goldberg, expert énergie.
Si on commence à séparer les bilans comptables, à mettre des murailles de Chine entre ce qui est rentable et ce qui l'est un peu moins, ça pourrait mettre certaines directions en difficulté. Tout ce qui est commercialisation, tout ce qui est vente d'électricité, donc là où on a beaucoup de concurrence, surtout depuis 2015, puis qu'il y a une partie des tarifs réglementés qui ont été abandonnés, c'est là où on pourra avoir certaines difficultés.
Même si le statut des salariés d'EDF n'est pas en danger, les syndicats s'inquiètent de cette filialisation où se situeraient Enedis et les réseaux de transport RTE. Aucun scénario n'est arrêté. On resserre simplement le champ des possibles, selon Jean-Bernard Lévy.
Delphine Simon du service économique de France Inter. La fusion entre Renault et Fiat Chrysler aura-t-elle lieu plus rapidement que prévu? Le conseil d'administration de la marque aux losanges a commencé hier à examiner la proposition du constructeur italo-américain et devrait prendre une décision dès la semaine prochaine. Le gouvernement français y est favorable. L'homme fort de l'Italie, Matteo Salvini, aussi. Les marchés applaudissent. Les syndicats de Renault eux, craignent en revanche les risques de réduction d'effectifs.
Il est 7h38, l'actualité à l'étranger avec l'investiture du nouveau président du Nigeria, Sébastien, pays toujours ravagé par les djihadistes de Boko Haram.
Le président Muhammadu Buhari rempile pour un nouveau mandat malgré des accusations de corruption, de mauvaise gouvernance. Son objectif, c'est toujours d'éradiquer le groupe terroriste Boko Haram, une promesse qu'il n'a pas réussi à tenir lors de son précédent mandat. Boko Haram qu'on croyait moribond et qui en fait ne cesse d'essaimer dans la région. Claude Guibal.
10 ans après son apparition dans le nord du Nigeria, Boko Haram est loin d'avoir disparu. Et cela malgré le triomphalisme un temps affiché par le président nigérian Muhammadu Buhari. Les attaques ont désormais gangréné toute la sous-région. Les combattants passent de frontière en frontière. Boko Haram est désormais présent dans tous les pays voisins du lac Tchad, le Nigeria, le Tchad, mais aussi le Niger, le Cameroun. Les attaques sont quasi quotidiennes et le bilan vertigineux. En 10 ans, au moins 27 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Avec l'arrivée de l'État islamique depuis 2 ans dans l'ouest de l'Afrique, les rivalités internes au groupe armé armées ont redonné de la vigueur aux djihadistes. Au-delà de Boko Haram, des myriades de groupes s'éparpillent, du Mali au Bénin, comme on l'a vu ce mois-ci avec le kidnapping des deux touristes français dans le parc de la Penjari. Des groupes qui se greffent sur des états faillis, des renversements de régime et qui ont basé toute leur stratégie sur les rivalités communautaires qu'ils instrumentalisent et qu'ils embrasent à une vitesse qui paralyse les coalitions régionales, incapable de se coordonner pour y mettre un coup d'arrêt.
En Irak, un quatrième djihadiste français a été condamné à mort. Il s'appelle Mustapha Merzougui, 37 ans, ancien militaire en Afghanistan, condamné pour appartenance au groupe État islamique. Plus de 500 étrangers de Daesh ont déjà été condamnés, mais aucun djihadiste étranger n'a jusqu'ici été exécuté. Le Soudan, lui, s'apprête à observer une grève générale aujourd'hui et demain afin de peser sur les discussions en cours avec les militaires au pouvoir.
Il est 7h40, il traque les éclairs et leur lumière spectaculaire. On les appelle, Sébastien, les chasseurs d'orages.
Et on connaissait le phénomène aux États-Unis, souvent frappé par des tornades, mais il existe aussi en France des hommes qui risquent parfois leur vie pour faire des photos extraordinaires. Béatrice Duguet les a interrogés sur leur passion à l'occasion du Forum international de la météo et du climat. Son reportage.
La vocation commence généralement petit, celle de Thibaut Cormier notamment.
J'ai commencé mes toutes premières photos avec le réflexe de mon père et le tout petit appareil photo de ma mère, 13-14 ans à l'époque.
Point commun de Thibaut Cormier avec Daniel Gauvin et Benoît Sarrazin, deux autres chasseurs, la sensation initiale.
J'avais une peur bleue de l'orage et en fait en grandissant je voulais un peu démystifier ce phénomène qui était assez puissant.
Bon, il y a eu un orage marquant dans mon enfance dans la Haute-Garonne. J'ai été à la fois terrifié mais à la fois fasciné par la violence de l'orage. Ma passion remonte à cet orage-là en particulier.
La météo du coup, ils en sont accros, les prévisions fines leur servent à traquer les événements climatiques intéressants.
On suit en temps réel l'évolution des cellules qui se forment avec les radars météo et les cartes d'impact de foudre.
Un téléphone mobile, un ou deux appareils photo, une cellule de déclenchement et la chasse peut commencer tout en restant hyper vigilant. C'est une activité dangereuse.
Quelques frayeurs, oui, sur des impacts tombants très très proches, ce qu'on appelle des extra-nuageux qui partent d'un orage qui peut être à plusieurs kilomètres devant nous et un éclair qui part du sommet du nuage et qui atterrit derrière.
En fait, au moment où l'orage naît vraiment et fait sa vie, entre parenthèses, je pense qu'on est plus chassé que chasseur. Et une fois que l'orage est parti, c'est lui qui fait sa vie. On ne peut pas vraiment tout anticiper.
Le Graal, c'est le cliché magique, l'éclair dans le bon paysage, celui que ces chasseurs d'orage partagent ensuite sur leurs réseaux sociaux et sites respectifs.
Les chasseurs d'éclairs avec Béatrice Duguet.
Et on termine, Sébastien, avec un collectif musical qui va en faire rêver plus d'un.
Imaginez un groupe composé, un, du batteur de Fela, inventeur de l'afrobeat, deux, du bassiste du groupe The Clash, pionnier du punk, 3 du guitariste de The Verve et 4 de l'ancien chanteur de Blur, Damon Albarn. Eh bien, ça existe. Il s'appelle The Good, The Bad and The Queen, pardonnez l'accent, et ils étaient hier sur la scène du Bataclan et seront ce soir sur la scène du Trianon à Paris. Leur dernier album est un album entièrement consacré à la situation en Grande-Bretagne après le Brexit. Mathieu Culeron a rencontré Damon Albarn et Paul Simonon hier à Paris.
Still say goodbye, and if you are leaving, can you leave me my silver jubilee, my old flag?
Le super groupe emmené par Damon Albarn vient jouer son deuxième album, un disque qui parle de l'Angleterre, qui la questionne, une interrogation venue du choc du Brexit. Damon Albarn.
On a essayé d'exprimer quelque chose à propos de ça. À ce moment-là, ça nous paraissait si étrange. Aujourd'hui, évidemment, c'est encore plus bizarre. Tout devient de plus en plus extrême. La droite, la gauche, il y a un trou béant au centre. Ce qui fait qu'on ne trouvera jamais la solution, car les mauvaises questions ont été posées.
Malgré la profondeur du disque, lorsqu'on a le batteur de Fela derrière soi et le bassiste de The Clash à sa gauche, l'ancien chanteur de Blur ressent une certaine décontraction.
Tout le monde dans le groupe a eu un parcours exceptionnel. On sait ce que c'est que d'être parvenu à quelque chose.
Hier soir, The Good, The Bad and The Queen ont joué au Bataclan, ce qui a rappelé des souvenirs mémorables à Paul Simonon, ancien bassiste du Clash.
Oui, c'était notre deuxième concert en France. En 77, il y avait plein de Teddy Boy qui n'aimaient pas trop ce qu'on faisait, des rockers.
Et Damon Albarn de s'exclamer.
Ça devait être Johnny Hallyday.
The Good, The Bad and The Queen en concert en France, une formation de légende qui joue l'un des meilleurs disques de l'année passée.
The Bad, The Good, The Bad and The Queen ce soir sur la scène du Trianon à Paris. C'est un peu complet, je crois.